Bonjour, bienvenue dans Politique. Notre invité aujourd'hui, Philippe Ollivier. Bonjour Philippe Ollivier. Ah ben j'espère que vous êtes avec nous. En tout cas, je vous renouvelle mon bonjour. Vous êtes député européen. Voilà, ça y est, on vous entend. Membre du Rassemblement national. Vous siégez au sein du groupe Identité et Démocratie, groupe qui compte 75 élus sur un total de 705 eurodéputés. Vous êtes par ailleurs présenté comme un des proches conseillers de Marine Le Pen. Alors, y aura-t-il un accord sur le Brexit? La date fatidique du 31 décembre, qui marquera la fin de la période de transition, s'approche à grands pas. Le Royaume-Uni s'apprête à divorcer définitivement de l'Union européenne sur un no deal. Ce n'est pas le moindre des dossiers que doit gérer l'UE, mais c'est loin d'être le seul. La crise sanitaire et désormais l'arrivée des vaccins ont remis les institutions européennes au centre du jeu, tout comme le plan de relance qui vient d'être décidé, qui devra coïncider avec les objectifs ambitieux des 27 sur le climat, une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Autre dossier à venir, les discussions autour du pacte migratoire européen présenté par la Commission en septembre dernier qui vise à remettre de la solidarité entre les pays membres. Autant de sujets qui ont à voir avec l'idée de souveraineté et dont nous allons donc discuter aujourd'hui en votre compagnie, Philippe Ollivier. Je voudrais qu'on commence cette discussion en évoquant la crise sanitaire, si vous le voulez bien. Depuis hier, on sait que l'Italie reconfine sa population à partir du 21 décembre et jusqu'au 6 janvier prochain. On voit que chaque pays prend des décisions, chacun dans son coin. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de normal, Philippe Ollivier, ou bien est-ce que vous estimez qu'il aurait fallu davantage de coordination sur ces mesures de confinement, reconfinement prises au sein de l'Union européenne?
Oui, mais écoutez, moi ce que j'observe, c'est que tout d'abord, au niveau du droit, la compétence de l'Union européenne est une compétence d'appui en matière de santé. Donc il est tout à fait logique que les États gèrent eux-mêmes les problèmes de santé publique et en l'occurrence la réponse face à la Covid. Donc on est dans un cas tout à fait normal. Maintenant, si on avait attendu l'Union européenne pour lutter contre cette épidémie qui est arrivée, on aurait été bien déçu parce que, rappelez-vous, Madame van der Leyen, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait simplement, au départ de l'épidémie, un tuto sur la façon de se laver les mains. Et puis, on avait ensuite un certain nombre d'injonctions de l'Union européenne qui allaient à l'inverse des mesures sanitaires qui auraient été nécessaires, et notamment le contrôle des frontières. Donc, on voit bien qu'il était sain qu'on n'attende pas l'Union européenne pour lutter contre cette épidémie.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, l'Union européenne, pour que ça vous semble davantage satisfaisant, Philippe Ollivier?
Bien, je pense qu'elle aurait pu, par exemple, établir une mutualisation des moyens hospitaliers. Il y a un organe de coopération et de coordination de l'action européenne qui doit coûter à peu près 750 millions d'euros, qui a été totalement absent. Donc on voit bien que cette coordination entre les pays ne s'est pas faite, alors même que ça aurait pu être extrêmement bénéfique.
Alors, de la coordination, il y en a quand même aujourd'hui à propos de la campagne de vaccination. Justement, la présidente de la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, l'a annoncé, c'était avant-hier, début de la campagne de vaccination dans l'Union européenne. Ça va commencer le 27 décembre prochain, enfin 27, 28, 29, parce que ça va dépendre des pays. Il se trouve que c'est Bruxelles, c'est l'Union européenne qui a centralisé les commandes. Là, on est dans de la mutualisation et dans de la coordination de la part des institutions.
Oui, on voit bien que c'est la séance de rattrapage.
C'est toujours mieux que rien, non?
D'ailleurs, il y a toute une opacité sur la manière de procéder, sur le choix des vaccins. Il y a d'ailleurs eu la publication du coût des vaccins et l'Union européenne, la Commission a demandé qu'on ne communique pas là-dessus. Il y a donc beaucoup d'opacité derrière tout ça. Mais enfin, on voit que l'Union européenne essaye de se remettre dans le jeu après avoir été totalement indigente.
Opacité sur le coût des vaccins. Alors oui, parce qu'il y a eu une publication qui ne devait pas avoir lieu, mais c'est aussi normal quand
Pourquoi
il y a des... parce que si on en juge par ce qui se passe dans les autres pays, et je ne parle pas seulement de l'Union européenne, quand il y a de grandes négociations commerciales avec des entreprises comme les laboratoires pharmaceutiques, il y a aussi des appels d'offres qui sont passés et qu'on n'est pas censé, je ne parle pas pas de moi en particulier, ni de vous, mais les règles commerciales veulent qu'on ne révèle pas tous les secrets des négociations en cours. Ça le sera peut-être par la suite. Et puis par ailleurs, je crois qu'il y a des eurodéputés qui vont avoir accès aux documents liés à la vaccination.
Écoutez, j'espère bien, parce que on a besoin de transparence. Et je rappelle quand même que le rôle des parlementaires, c'est de contrôler notamment l'utilisation de l'argent public. Et donc, il est bien évident qu'il faudra faire la clarté sur tout ce qui a été décidé, et le coût, et les résultats.
Ah bon, bah ça, on verra dans les prochaines semaines la façon dont les parlementaires européens seront impliqués ou non dans ces questions. Il y a beaucoup de sujets, je le disais en début de cette émission, Philippe Olivier, que je voulais aborder avec vous. Et il y a notamment, bah tiens, d'ailleurs, un pays qui a peut-être pris de l'avance par rapport à l'Union européenne qu'il est en train de quitter, c'est le Royaume-Uni sur la question de la vaccination. Le Royaume-Uni, alors, qui fait plus partie de l'Union européenne, mais qui n'est pas encore tout à fait parti, ce sera effectif le 1er janvier prochain, avec ou sans accord. Pour l'instant, on est plutôt du côté du sang.
Toujours pas d'accord en vue, mais les discussions se poursuivent. Voilà en substance le résumé de l'entretien téléphonique entre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique. Dans un tweet, Boris Johnson estime ainsi que le temps est compté et que la position de l'UE doit changer de manière substantielle. Si Ursula von der Leyen fait état d'importants progrès vers un accord commercial post-Brexit, les mêmes points d'achoppement persistent, au premier rang desquels la question des droits de pêche dans les eaux britanniques et la création de règles du jeu équitables pour offrir une concurrence loyale aux deux parties. Le gouvernement britannique met en garde contre un chaos. Le 1er janvier, 7000 camions pourraient être bloqués dans le port de Douvres si aucun accord commercial n'est trouvé entre les deux parties.
Voilà, reportage ce matin sur France 24. Toujours pas d'accord sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Philippe Olivier, ça bloque à cause de qui ?
Écoutez, ça bloque bien sûr parce que chacun défend ses intérêts, ça c'est tout à fait logique, mais je crois aussi que ça bloque parce que nous sommes un peu victimes du dogmatisme de l'UE. L'UE n'a pas supporté le divorce et a essayé de faire payer aux Britanniques leurs ailes indépendantistes, si j'ose dire, et donc faire en sorte que ce Brexit soit le plus douloureux possible. Alors il y a d'abord eu une manœuvre qui n'a trompé personne entre Theresa May, qui était hostile au Brexit, et Michel Barnier, pour essayer de faire échouer le Brexit, puis finalement revenir de manière indirecte en contournant la volonté du peuple britannique. Ça a échoué, Johnson est arrivé, et donc nous sommes dans une négociation où chacun défend ses intérêts, je le disais, mais il ne faut pas dramatiser. Depuis le début, on repousse les délais. Je vous rappelle que le Brexit, c'était le 29 mars 2019. Ça a été reporté au 12 avril, puis le 31 octobre, puis le 31 janvier 2020, etc. etc. Et maintenant, on est dans les transactions ultimes. Bon, bah, écoutez, il y a trois solutions. Soit il n'y aura pas d'accord, et les règles de l'OMC s'appliqueront, ce sera un pays tiers, et puis très vite, on retrouvera, je pense, des accords avec un voisin qui reste un voisin incontournable et un membre du continent européen. Je ne vois pas qu'on puisse, par exemple, avoir des accords privilégiés avec la Turquie et ne pas en avoir avec la Grande-Bretagne.
Donc moi, ça, c'est la première option. C'est l'option qui est à vos faveurs ?
Non. Moi, je pense que Nous devons, l'option qui est à ma faveur, c'est de défendre les intérêts français. Et en l'occurrence, le premier dossier qui nous intéresse, c'est la pêche. Et en l'occurrence, peut-être que l'Allemagne n'est pas très intéressée par le dossier pêche. Donc il faut que nos négociateurs soient particulièrement vigilants sur ce dossier.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de contradiction dans ce que vous dites ? Pardonnez-moi, Philippe Olivier, mais vous dites, en gros, l'Union européenne a été peut-être un peu trop stricte dans ses négociations de sortie avec le Royaume-Uni, et en même temps, vous dites, il faut faire attention sur la pêche, puisque les Britanniques ne veulent pas restituer une partie de leurs droits de pêche, justement, qu'ils avaient acquis au sein de l'Union européenne. Donc, vous réclamez un peu de sévérité sur ce dossier, quand même, manifestement.
Non, ce qu'on réclame, c'est qu'on défende nos intérêts, pas de manière idéologique, de manière pragmatique. Si vous voulez, le paradoxe, c'est que sur le dossier de la pêche, le dossier de la pêche est plus avantageux aujourd'hui pour l'Union européenne qu'il ne l'est pour les Britanniques. Donc ils sont en situation de force sur ce sujet. Mais il faut intégrer ce paramètre dans une négociation. Et si on bloque l'ensemble de négociations pour d'autres raisons, eh bien, le dossier de la pêche en ressentira. Donc, vous voyez, c'est un jeu évidemment extrêmement particulier, mais comme dans toutes les négociations. Mais ce qui est sûr, c'est que si la volonté de l'Union européenne, c'est de punir les Britanniques et d'essayer de faire de ce Brexit la séquence la plus douloureuse possible, nous serons mal partis pour défendre vraiment nos intérêts.
Est-ce qu'avec le recul, vous considérez que les Britanniques ont bien fait de choisir de quitter l'Union européenne? Et est-ce que vous considérez toujours, au sein du Rassemblement national, que c'est un départ qui peut avoir une valeur exemplaire, c'est-à-dire qui pourrait inspirer d'autres pays, à commencer par la France?
Nous respectons la volonté des peuples. C'est l'ADN de notre combat politique. Et donc, nous respectons tout à fait la volonté des Britanniques. Mais comme vous le savez, sur l'affaire du Frexit, puisque vous en parlez, nous ne sommes pas sur cette option-là. Nous pensons que maintenant qu'il y a une montée des mouvements nationaux en Europe, il y a la possibilité de faire évoluer l'Europe dans le bon sens. Et donc, nous voulons la changer de l'intérieur et non plus la quitter.
Ça veut dire que ce qui était le premier objectif qui s'affichait dans la campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017, juste pour que ça soit bien clair, je relis ce qu'on peut toujours trouver d'ailleurs très facilement sur le site du Rassemblement National, rendre à la France sa souveraineté nationale vers une Europe des nations indépendantes au service des peuples. Et premier objectif, une négociation sera engagée avec nos partenaires européens, suivie d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire que, eu égard, on va dire, à la configuration qui existe désormais aujourd'hui au sein du Parlement européen, ce référendum-là ne serait plus d'actualité?
Non, il n'est plus d'actualité, mais il pourrait le redevenir. Si on n'arrivait pas à changer les règles, et si, mais comme on va le voir, on va parler du pacte d'immigration, d'un certain nombre de dossiers, si l'Union européenne devait nous amener à la disparition de la nation française, c'est sûr que nous serions amenés à hausser un peu le ton. Là, nous sommes des optimistes, nous avons le sentiment que les choses peuvent bouger dans tous les pays et nous voulons saisir cette chance.
Alors Philippe Olivier, donc je rappelle, vous êtes député européen, membre du Rassemblement national et vous siégez au sein du groupe Identité et Démocratie. Grosse actualité européenne avec... Par ailleurs, donc la semaine dernière, un plan de relance qui a été annoncé, 750 milliards d'euros pour ce seul plan de relance, plus le budget pour les 6 prochaines années, plus de 1000 milliards d'euros. C'est un accord alors qui existait depuis déjà quelques semaines, sauf qu'il y avait un blocage de la part de la Hongrie et de la Pologne. Le versement des aides était conditionné au respect de l'état de droit. Ces deux pays étaient contre. Ils ont fini par se ranger manifestement à cet accord. Est-ce que ça n'est pas la moindre des choses, finalement, que les aides du plan de relance soient conditionnées au respect de l'état de droit au sein de l'Union européenne?
Alors, qu'est-ce que l'état de droit? Alors, l'état de droit, c'est une avancée civilisationnelle de l'Europe qui a soumis l'État à des principes fondamentaux pour garantir les droits des citoyens. C'est une bonne chose. Mais en l'état, l'Union européenne utilise la notion d'état de droit pour essayer de contraindre les pays européens récalcitrants à rentrer dans son cadre.
Mais récalcitrant à quoi ?
Appliquer sa politique.
Récalcitrant à quoi ?
Récalcitrant à quelques petites choses qui ne sont pas, qui pour nous relèvent tout à fait de la souveraineté des nations. Par exemple, ce qu'on reproche à la Pologne et à la Hongrie, c'est le refus d'admettre les quotas de migrants. Moi, je crois qu'ils ont droit. C'est le refus de faire passer des lois sociétales que l'Union européenne voudrait voir passer. Ou c'est...
Loi sociétale, vous entendez quoi, par exemple ? Loi sur l'interdiction de l'IVG ?
Mais attendez.
Sur le contrôle des médias ?
C'est l'abaissement de l'âge de la retraite pour les juges de 70 à 65 ans. Et tout ça fait un pataquès qui me semble à la fois excessif et ensuite illégitime. Parce que, bien sûr qu'il y a un état de droit, mais il y a un état de droit national. Et puis, est-ce qu'on doit substituer le pouvoir des technocrates, le pouvoir des juges, à la volonté populaire des peuples? Je vous rappelle quand même que les gouvernements polonais et hongrois sont légitimes. Ils ont été élus de manière démocratique. Et donc, ils appliquent le programme sur lequel ils ont été élus. Il y a un exemple tout à fait frappant et qui montre un peu le ridicule de la situation lorsque l'état de droit devient la dictature des juges. Lorsque Salvini, qui est élu en Italie, refuse l'accès de bateaux de migrants sur ses côtes, et il y a un juge pour le poursuivre pour enlèvement et séquestration. On voit bien que, alors qu'il n'a fait qu'appliquer le programme sur lequel il a été élu, on voit bien qu'il y a là une dérive de l'état de droit pour contrôler politiquement un certain nombre de pays ou un certain nombre de dirigeants. Et tout ça n'est pas admissible parce que c'est un abus, j'allais dire, de concept d'état de droit. L'état de droit, il est d'abord national, mais vous savez, créer un état de droit européen, c'est une manière pour l'Union européenne de se prendre pour un État.
Est-ce qu'au regard...
une organisation internationale.
Alors, est-ce qu'au regard de ces réserves que vous exprimez, Philippe Olivier, vous, en tant qu'eurodéputé et votre groupe, Identité Démocratie, allez voter contre ce plan de relance lorsqu'il vous sera soumis?
Nous verrons ce que nous ferons, mais nous avons pas mal de griefs sur ce plan de relance. D'abord, ce plan de relance, il faut savoir que nous y contribuons à 70 milliards et nous avons 40 milliards de retours. Donc on a un gap de 30 milliards, ce qui est quand même considérable. La deuxième chose, c'est que le fait qu'il y ait un plan de relance européen, ça nous fait perdre la capacité de déterminer, de diriger les aides que nous voulons faire. Et nous sommes tenus, finalement, par quelqu'un d'autre pour les aides à tel ou tel secteur. Et puis, troisième point, qui est pas sans importance, c'est que ce plan de relance implique une mutualisation des dettes, sans d'ailleurs que notre contribution en soit pour autant diminuée, une mutualisation des dettes qui va amener aux ressources propres. Et quand on dit ressources propres, pour que les gens comprennent bien, il s'agit d'impôts européens. Alors aujourd'hui, on nous parle d'un impôt numérique, d'un impôt sur les plastiques, d'un impôt sur la taxe carbone ou sur les transactions financières. OK, tout ça apparaît bien loin, même si à la fin, ce sera le même contribuable, le même citoyen qui paiera tout ça. Mais derrière, rien ne nous dit qu'on n'aura pas un impôt sur les entreprises ou un impôt sur les particuliers. Donc vous voyez que ce plan de relance, il pose un certain nombre de problèmes de souveraineté sur le contrôle des fonds et de problèmes de souveraineté financière par la suite.
Bah, ça dépend où est-ce qu'on situe la souveraineté. La souveraineté, elle ne se situe pas forcément, en tout cas exclusivement à l'échelle d'une nation. Il peut aussi y avoir une souveraineté européenne et ce plan de relance, il permet aussi, enfin il est censé, il est présenté comme ça, il est censé permettre à l'Union européenne d'assurer sa souveraineté dans la compétition économique mondiale. Mais Philippe Olivier.
Vous savez, qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? La souveraineté, c'est la liberté. La souveraineté est aux nations ce que la liberté est aux individus. Moi, je crois que les nations sont libres et doivent être libres. Qu'elles coopèrent ensuite dans le cadre d'une organisation qui s'appelle l'Union européenne ou quelle que soit d'ailleurs l'organisation, c'est légitime, mais cette organisation ne peut pas devenir un État. Et pire, nous sommes en train de nous dire que l'Union européenne voudrait être un État fédéral, mais elle est partie pour être un État centralisé jacobin. Et nous ne serions plus que des régions de cette Europe qui est en fait un empire qui ne fait que s'étendre. Donc il y a derrière la question de l'UE, pas simplement de la coopération internationale, il y a des problèmes de fond qui se posent sur l'existence de nos nations, de nos États, de nos libertés.
Mais chez qui est-ce que vous voyez poindre justement cette volonté de fédéralisme ? Parce qu'on a plutôt l'impression quand même que c'est une idée alors qui a existé, qui a été forte il y a quelques années, mais qui aujourd'hui s'est considérablement quand même atténuée.
L'idée fédéraliste, on la voit partout. Dans toutes les décisions qui sont prises tentent à dessaisir les États de leurs prérogatives pour les confier à soit des technocrates de Bruxelles, en ce qui concerne la politique. Hein, on l'a vu avec le contournement de la Constitution en 2005, qui a été remplacé par le traité de Lisbonne. On l'a vu, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, avec cette espèce de d'accord un peu crapuleux entre Barnier et Theresa May pour essayer de contourner le Brexit. On le voit sur le pacte des migrations où des technocrates s'emparent du pouvoir de déterminer la démographie européenne. Et puis, il y a également cette question de souveraineté qui se pose avec l'état de droit, on en a parlé, hein, avec une dictature des juges.
Alors, si vous voulez bien...
les États, par tous les côtés, pour finalement n'en faire que de simples régions d'un grand empire.
Alors, évoquons justement ce pacte européen sur la migration et l'asile, c'est son nom, hein. Il a été présenté fin septembre par la Commission européenne, ça ne veut pas dire qu'il s'applique. Il est présenté, il va être discuté dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, je vais essayer de le résumer, mais en gros, il y a trois grandes lignes. Il y a l'idée qu'il y ait davantage de solidarité et de coopération entre les pays pour l'accueil des migrants, qu'il y ait des procédures de traitement des dossiers qui soient beaucoup plus rapides. Et il y a également un contrôle accru aux frontières extérieures de l'Union européenne qui est mis en place. C'est un pacte contre lequel vous avez décidé de vous mobiliser au sein du groupe au sein duquel vous siégez. Je crois même qu'il y a une pétition qui est prévue, là aussi, dans les prochains jours. Qu'est-ce qui vous déplaît à ce point dans ce pacte européen qui essaie quand même manifestement de mieux coordonner, de mieux harmoniser les politiques migratoires des différents pays?
Oui, alors tel que vous l'avez décrit, ça peut apparaître séduisant, effectivement. Et j'allais dire, excusez-moi, n'y voyez aucune critique, ce sont les éléments de langage de l'Union européenne. La vérité, elle est beaucoup plus préoccupante. En réalité, ce pacte, il vise d'une part à sécuriser l'immigration, ce qui pourrait se comprendre, mais en réalité, à transformer l'immigration légale en immigration, l'immigration illégale en immigration légale, à effacer la distinction entre réfugiés et migrants, et notamment migrants économiques. Elle vise également à créer de nouvelles filières d'immigration avec, par exemple, la possibilité, la décriminalisation pour les ONG de toute leur action en ce qui concerne le sauvetage en mer. Alors, on voit bien...
C'est quand même la moindre des choses que pardonnez-moi, Philippe Olivier, mais quand on porte assistance à des personnes en danger, c'est quand même la moindre des choses que ça soit décriminalisé.
Alors, je vais vous dire, le droit international dit que quand on récupère des personnes, on doit les amener au port le plus proche, sûr. Or, c'est pas ce qui se passe. Parce que le port le plus proche de la Libye, c'est la Tunisie. Mais on les amène en Italie. Donc on voit bien qu'il y a un détournement du droit international. Mais pourquoi c'est fait finalement? C'est fait pour permettre à des organisations, des ONG qui sont extrêmement politisées, d'aller chercher sur les côtes libyennes ou sur d'autres côtes africaines des personnes. Alors il y a quand même un certain nombre de doutes sur les connexions entre ces ONG et les passeurs. Amener ces personnes.
C'est-à-dire, qui seront soyez plus précis parce que je comprends. Ouais.
En Europe.
Ce qui c'est-à-dire les connexions entre les ONG et les passeurs. C'est-à-dire quoi? Il y aurait une complicité des ONG avec les passeurs.
On ne l'exclut pas. D'ailleurs, il y a des juges italiens qui ont investigué là-dessus. Et là, l'Union européenne s'interdit de regarder cet aspect-là en décriminalisant de manière systématique toute cette action-là. Or, là, il y a détournement visiblement du principe de solidarité. Et puis, je dirais, les États doivent rester maîtres de leur filière d'immigration. C'est pas aux ONG de décider qui rentre ou qui ne rentre pas dans l'Union européenne. Je crois que, alors, ne nous y trompons pas, hein, d'ailleurs. Les ONG, si vous le regardez, ils sont en train de préparer et d'affréter des bateaux immenses pour faire une sorte de pont maritime entre l'Afrique et le continent. Je crois qu'il y a là un très très grave danger sur nos systèmes sociaux, sur nos systèmes économiques, parce que nous rentrons dans une crise majeure et cet accroissement de l'immigration est extrêmement problématique. Alors il n'y a pas dans le pacte d'immigration d'étude d'impact. Donc on prend des mesures, notamment sur le regroupement familial, très étendu pour toute l'Europe. On a vu les conséquences avec le décret de 76 pour la France, mais cette mesure, on ne les évalue pas. Mais il y a un mode, il y a quelque chose qui permet d'évaluer les effets de cette politique, c'est le fonds pour l'immigration. Il passe de 3 milliards à 10 milliards, c'est-à-dire 300% d'augmentation. On va multiplier par 3 le budget.
Oui, mais ça va aussi servir au contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, Philippe Olivier. Mais juste d'un mot, parce qu'on est presque au terme de l'émission, si vous voulez bien.
Est-ce que vous avez vu Frontex qui a essayé dans une opération d'aider à la reconduction de migrants, elle s'est fait taper sur les doigts par la Commission européenne. Frontex n'est pas une agence de contrôle de l'immigration, c'est une agence d'accueil des migrants. Et donc, il y a là un problème majeur en ce qui concerne les ordres qui sont donnés à Frontex.
Alors, Philippe Olivier, pour terminer cette émission, je le rappelle, hein, vous êtes élu du Rassemblement National. Vous siégez au sein du groupe Identité et Démocratie, qui est un groupe qui sert donc de porte-voix aux idées des partis qu'on qualifie d'eurosceptiques. Bonjour Antoine Ulster.
Bonjour.
On vous retrouve comme chaque semaine pour votre chronique de fin d'émission. Et cette résonance des partis alliés au RN n'a pas toujours été une évidence dans l'histoire du Parlement européen.
Et non, hein, sur le temps long, l'histoire du Front puis du Rassemblement National dans les couloirs du Parlement est même assez difficile à suivre. Cela tient peut-être au paradoxe hein, qui est celui des eurodéputés RN, critiquer l'Europe en siégeant dans ses institutions. Alors pour être concret, le parti s'est toujours cherché des alliés au Parlement depuis son entrée fracassante en 1984. Des alliés donc un groupe politique dans lequel siéger. C'est un élément capital hein, pour avoir accès à des postes en commission et accessoirement à des financements. Jean-Marie Le Pen et ses colistiers rallient donc le groupe des droites européennes qui deviendra plus tard le groupe technique des droites européennes. Mais ces rassemblements de députés nationalistes et eurosceptiques ne résistent pas aux logiques de la politique partisane. Des alliés qui s'éloignent, comme le MSI italien, ou des députés battus tout simplement quand les scrutins sont moins favorables. Tout cela complique forcément l'équation à l'heure de recompter les troupes en tenant compte des critères de formation d'un groupe parlementaire. Et c'est en vertu de ces aléas que des élus FN ont été isolés pendant de nombreuses années en siégeant parmi les non-inscrits. Et en fait, il faudra attendre les suites de l'élection européenne de 2014 pour voir renaître un groupe européen incluant des députés frontistes. Le groupe de l'Europe des Nations et des Libertés est créé en 2015. C'est Marine Le Pen qui l'annonce elle-même dans une conférence de presse en juin 2015.
Tout va changer car nous avons la possibilité, encore une fois, d'amender en plénière. Nous pouvons avoir des rapporteurs fictifs, nous pouvons être dans les coordinations.
Et pour tout changer, justement, il faut investir le travail du Parlement dans ses commissions. C'est ce qu'expliquait Édouard Ferrand, chef de la délégation FN au Parlement européen, quelques mois plus tard, en décembre 2015.
Nous sommes 38 députés et plus de 100 collaborateurs. Et effectivement, nous avons présenté 2 motions de censure, plus de 2000 interventions en séance, plusieurs milliers d'amendements. Et nous sommes investis dans toutes nos commissions. Les 22 commissions du Parlement européen sont couvertes par nos députés. Et c'est vrai que nous sommes devenus, je pense, le principal groupe d'opposition.
Et ce statut d'opposition revendiqué a eu un coût politique, c'était la séparation des députés frontistes de celui qui avait été leur chef pendant de nombreuses années, Jean-Marie Le Pen, qui s'était illustré par une énième sortie antisémite quelque temps plus tôt, en contradiction d'ailleurs avec la stratégie de dédiabolisation adoptée par sa fille. Avec ce résultat, le fondateur du Front National était jugé infréquentable par les partis dont Marine Le Pen voulait se rapprocher. Avec sa suspension puis son exclusion en 2015, une alliance européenne devenait donc enfin possible. Une alliance qui s'est même élargie après les dernières élections européennes avec un changement de nom à la clé. L'Europe des Nations et des Libertés est devenue Identité et Démocratie. Mais une inconnue et une inconnue de taille demeure, celle des objectifs politiques concrets d'une telle alliance. Les députés Identité et Démocratie s'illustrent plus par leur vote de rejet que par leurs propositions. Et c'est logique d'ailleurs, c'est le jeu institutionnel du Parlement. Mais cela donne forcément très peu d'éléments sur leur capacité à travailler ensemble sur des politiques précises. Des politiques qui mettraient peut-être en lumière des divergences entre ces députés en matière économique, dans le rapport à l'État et même peut-être dans les subtilités et les complications des politiques migratoires.
Eh bien, merci beaucoup Antoine Ulster et merci à vous Philippe Olivier, député européen, membre du Rassemblement National, d'avoir participé à ce numéro de Politique, émission préparée par Antoine Ulster, réalisée par François Connac avec à la prise de son Clara Galivel, à écouter et télécharger sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. La semaine prochaine, c'est Gérard Courtois qui sera aux manettes de Politique. Je vous donne pour ma part rendez-vous le 28 décembre pour les matins de France Culture.